Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. 1942. Cachée dans une maison d'enfants de Lozé, dans la Creuse, Fanny, 12 ans, et ses deux jeunes sœurs, Erika et Georgette, sont obligées de fuir vers la Suisse. Un temps zone refuge, la zone italienne ne l'est plus à partir de septembre 1943, quand les Allemands envahissent l'Italie. Et les enfants doivent fuir de nouveau vers la France. Heureusement, Madame Forman, qui s'est occupée d'eux en Suisse, est là pour les protéger. Mais très vite, à la faveur des circonstances, ils se retrouvent seuls, entièrement livrés à eux-mêmes dans un monde de toutes parts hostile. Fanny prend alors la tête du groupe qui s'engage dans un périple à travers la France occupée pour rejoindre la frontière suisse. Bonjour Lola Doyon.
Bonjour.
Vous êtes ici pour nous parler du voyage de Fanny. Vous êtes réalisatrice, donc, produit par Metropolitan avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Il s'agit de votre troisième long métrage. Je voulais savoir tout d'abord, qu'est-ce qui vous avait inspiré ce film ? Si c'était une lecture, une rencontre
En fait, j'ai adapté une petite partie de l'histoire de Fanny Benhamy, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le journal de Fanny ». Et donc, je me suis plongée à la suite de la lecture en fait, de ce livre. J'ai été rencontrer Fanny Benhamy, qui vit en Israël aujourd'hui, pour en savoir un petit peu plus. Parce qu'effectivement, c'est un livre qui raconte 4-5 ans de son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale à travers la France. Quoi. Elle venait d'Allemagne. Donc, il y avait un moment dans cette histoire, effectivement, ces enfants qui se retrouvaient un peu ensemble, un peu seuls, sans adultes, et qui tentaient de fuir vers la Suisse. Donc voilà, j'ai été la rencontrer, elle, pour qu'elle me parle. Quoi. J'étais à l'écoute, elle avait envie de parler, j'avais envie d'écouter. Donc, je suis allée piocher dans ses souvenirs et surtout dans ses émotions, dans ses sensations, dans ses sentiments.
D'accord. Donc, quand vous dites que vous avez adapté une partie, voilà, c'est pas fidèle à l'ensemble du livre. Vous avez puisé à d'autres sources, à d'autres témoignages.
Oui, effectivement, comme je faisais pas un documentaire, c'était un film de fiction. Donc, pour faire un film d'1h30, il y a besoin de rebondissements, de choses qui forcément ne sont plus de la vraie vie. Donc, j'ai beaucoup pris de sa vie, en fait, d'un petit morceau de sa vie, forcément. Et par contre, tout ce que j'ai rajouté, il me semblait important que ça soit juste. Donc, j'ai été piochée, effectivement, dans beaucoup d'anecdotes que j'ai entendues, dans des témoignages, dans des récits, d'anciens enfants cachés, de moniteurs. Et j'ai été prendre ces petites anecdotes que j'ai rajoutées pour être assez... fidèle à l'histoire, même si c'est des histoires individuelles, mais ça me paraissait, je me sentais pas avoir la responsabilité de changer cette histoire-là. Donc j'ai essayé vraiment d'être au plus près d'une vérité.
Vous aviez même un conseiller scientifique, je crois, pour ce film, non, ou des historiens qui vous ont aidé.
Oui, j'ai fait appel parce que j'avais pas envie de dire de bêtises. Après, il y a tout ce qu'on lit, il y a tout ce qu'on voit sur Internet, il y a les récits, mais c'est vrai que j'ai eu besoin de me rapprocher de gens dont c'est la spécialité et qui font ça depuis plusieurs années. Donc, j'ai fait appel à quelques historiens, j'ai été à Lozé, j'ai rencontré Cathy Azon pour ressortir des dossiers pour être sûr de ne pas dire trop de bêtises.
Cathy Azan, l'historienne donc de Lozé, notamment du rôle de l'œuvre de secours aux enfants dans le sauvetage des enfants juifs pendant la guerre. C'est d'ailleurs un scrupule, je trouve, qui vous honore parce que c'est un sujet, je pense, on ne peut pas se permettre d'être approximatif. Je trouve que votre film est vraiment à la hauteur du sujet. Qui nécessite exactitude, ce qui n'empêche pas la fiction, mais en tout cas d'être fidèle à ce qui s'est passé, parce qu'il y a toujours le risque ensuite, avec le négationnisme, que ça soit utilisé, déformé, etc. C'est un film tourné, on pourrait dire, à hauteur d'enfants, hein, dont les acteurs principaux sont des enfants. Les adultes étant, eux, divisés en deux catégories, en quelque sorte, les bienveillants, et puis ceux qui, au contraire, vous veulent du mal. Et c'est votre choix de faire un film, on va dire, à hauteur d'enfant, qui donne le point de vue des enfants.
Oui, en fait, l'histoire, au départ, c'est que j'avais envie de m'adresser à un enfant. En fait, pour revenir au début, c'est qu'il y a 3 ans, je suis allée à Montélimar à l'occasion de la pose d'une plaque commémoratif sur une maison. Et cette maison, c'était la maison dans laquelle s'est fait arrêter les arrière-grands-parents de mon fils, qui ont été déportés, qui ne sont jamais revenus. Et je me suis retrouvée, ça me paraissait très important que mon fils soit là. Il avait à l'époque 5-6 ans. Et je me suis dit, qu'est-ce que je lui raconte? Il va assister à cette commémoration. Comment lui raconter et qu'est-ce que je raconte à un enfant sur ça, sur cette période de l'histoire? Et ce film, c'est un peu ça, c'est que je me suis dit, je veux m'adresser à des familles, à des enfants qui n'ont pas forcément fait l'histoire à l'école, qui n'ont pas traité de la Seconde Guerre mondiale, qui ne connaissent rien. Et comment aborder ce sujet sans en dire plus, sans montrer les horreurs de la guerre, parce que ce n'était pas mon but, c'était de sentir la guerre. Donc le fait de montrer à des enfants une histoire à hauteur d'enfant, une histoire d'aventure, avec la guerre qui est présente en permanence. Et je me dis, c'est un moyen de rentrer dans cette histoire. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que quand on a vu les premières fois le film, les enfants rentraient dans l'histoire sans aucun problème. Les enfants s'en foutent de savoir si c'est 42, 43. Ils recueillent l'histoire, ils rentrent dans des histoires. Ils ne sont pas sur la justesse de ça, ils ne savent pas encore. Donc les adultes ont besoin. Les adultes, c'est eux qui questionnent. C'est eux qui ont besoin d'avoir des informations.
Votre film n'est pas surchargé de ce genre d'informations. On ne sait pas forcément très bien où ça se passe, quand ça se passe. C'est aussi en ça que vous êtes fidèle au regard des enfants, à leur façon d'appréhender le monde, finalement.
J'ai mis quelques informations pour les adultes qui demandaient et que j'avais besoin. Ils avaient besoin de savoir, mais on est où, en quelle année? Même si, pour la plupart des adultes, entre fin 42, début 43, ça ne change pas grand-chose. Donc j'avais besoin de faire des rappels, parce qu'on ne se souvient pas tous à quel moment les Italiens reviennent, on ne connaît pas forcément l'histoire sur le bout des doigts. Donc j'avais besoin de faire des piqûres de rappel sur le plus basique.
Le contexte minimal.
Une date, un truc pour les adultes, mais pour se replonger dans l'histoire. Mais le but, c'était vraiment de se dire, on est dans l'histoire. Si en ressortant du film, ces enfants posent des questions, je laisse la responsabilité aux parents ou aux professeurs. Après, c'est plus de ma responsabilité de raconter plus, de raconter l'histoire de famille ou non, de raconter un peu plus d'histoire ou non, selon l'âge des enfants. Mais oui, je voulais vraiment m'adresser à tout le monde et pas que aux adultes.
Je crois que c'est un parti pris assez original, parce que finalement, des films qui adoptent le point de vue d'enfant, c'est vraiment très rare, surtout sur cette période. Et ça permet finalement de se mettre à la place de ces enfants, à la fois de la terreur qu'ils ont pu éprouver à certains moments, du chagrin aussi, finalement, qui est le leur, parce qu'ils sont privés de leurs parents, l'affection de leurs parents. Et puis, en même temps, ce que vous montrez très bien, c'est que cette terreur, tout d'un coup, elle peut basculer dans la joie, comme les enfants, on peut passer d'un état à l'autre, de la plus grande détresse à la plus grande joie, excitation. Il y a des très belles scènes où vous avez réussi à montrer ce moment de bascule.
Effectivement, je n'avais pas envie de montrer la guerre parce que, je voulais m'adresser à des familles, à des enfants. Donc, je n'avais pas l'envie de montrer la violence de la guerre. Et surtout, ces enfants dans le film, ils n'étaient pas au front. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas au front qu'ils n'étaient pas les premières victimes de la guerre. Parce que c'était les premiers dont les parents étaient absents depuis des années. En tout cas, par rapport à la guerre, je voulais que ça soit présent sans la voir. Qu'ils soient victimes sans montrer la guerre. Que ça soit présent en permanence. Et après, comme c'est des enfants, effectivement, les enfants ont un pouvoir de se casser la gueule et de repartir. Les enfants ne s'apitoient pas sur eux. Ils tombent, ils se font mal, ils peuvent être vexés, ils peuvent être en colère, ils peuvent avoir du chagrin derrière.
Oui, ils ont des émotions très entières.
Très entières, et ça repart surtout très vite. Ils sont dans la vie, les enfants avancent tout le temps. Ils repartent. C'est des machines de guerre sur ça, eux, parce qu'ils repartent en permanence. Ils ne s'arrêtent pas. Ça s'arrête, ça pleure. Ça repart.
D'ailleurs, votre héroïne, Fanny, alors rappelez-moi le nom de la...
Léonie Souchot.
De la jeune fille, qui l'incarne. Elle est formidable pour ça, pour cette détermination, on y va, quoi. Et en même temps, c'est une héroïne fragile. Vous la montrez aussi à des moments dépassée par la charge qu'elle a sur les épaules, puisque c'est donc cette assistante sociale, je ne sais pas, Madame Forman, qui va...
Oui. Directrice de maison
de Lozé, qui va l'investir de ce rôle à un moment donné. Peut-être qu'on peut aussi justement évoquer ce personnage de Madame Forman, donc incarnée à l'écran par Cécile de France, qui joue très très bien. De qui s'inspire-t-il en réalité?
Alors, je me suis inspirée de deux personnages, de deux personnes qui ont existé. C'est de la vraie maison d'enfants de Chaumont, la maison de Chaumont dans laquelle était Fanny Benhamy.
Dans la Creuse. Dans la Creuse.
Et de Madame Salon Veil, dont j'ai lu l'histoire, qui a été sous le réseau Garel, qui a aidé les enfants à s'enfuir, et d'ailleurs qui a été jusqu'au bout, parce qu'elle a refusé de... Quand elle s'est fait arrêter avec des enfants, elle les a conduits jusqu'à la chambre à gaz, elle a refusé de les laisser. Donc elle a vraiment donné sa vie pour ça. Et je trouvais ça important de montrer sur les deux personnages d'adultes, quoi, avec Madame Forman et le fermier Jean, qui est interprété par Stéphane de Groot, c'est de montrer à quel point il y a une femme qui peut paraître très dure au départ, mais qui prend cette responsabilité de sauver des enfants au péril de sa vie, oui, totalement, mais qui est dans le besoin de sauvetage. Et le besoin de sauvetage veut dire une immense responsabilité et veut dire d'essayer de responsabiliser ses enfants. Donc avec une grande dureté, de les préparer à être indépendants. Et inversement, il y a ce personnage de Jean le fermier qui lui sauve des enfants presque malgré lui. C'est juste par humanité, il n'a aucune volonté de ça, c'est juste il ne peut pas laisser ses enfants crever devant lui. Donc c'est deux sauvetages différents qui ne sont pas moins importants.
Oui, en quelque sorte, Madame Forman, en fait, apprend à ses enfants à se sauver eux-mêmes, quoi. Elle sait bien qu'elle ne sera pas toujours là, soit parce qu'elle va être arrêtée, soit parce que
Parce qu'elle pouvait, et que les adultes ne voyageaient pas avec les enfants. Donc les enfants étaient, comme c'était très dangereux, parce que les enfants n'avaient pas besoin d'avoir de papier d'identité, tandis que les adultes étaient obligés, donc c'était des faux papiers. Donc c'est vrai que il les préparait aussi à voyager seuls, souvent sous la responsabilité d'un adolescent, quoi, d'un un peu plus grand, en essayant que ça soit moins de 16 ans pour qu'ils puissent passer en Suisse. Mais donc, c'est des enfants qui voyageaient seuls, qui étaient récupérés par des adultes en fin de gare, en fin de... après le bus, après, juste pour les relayer. Mais donc, c'est vrai qu'ils voyageaient seuls, donc il fallait les préparer à ça.
Et c'est ce que raconte le film, c'est-à-dire que les enfants, à un moment donné, se retrouvent complètement seuls. Ils ont rendez-vous à Annecy, c'est ça, ou à Annemasse, je ne sais
Annemasse,
plus, à Annemasse,
ouais.
Sous le panneau colonie de vacances. Le train, il y a un problème de train, donc ils se retrouvent complètement perdus à la gare d'Annecy, et ils vont finir par arriver à bon port, mais il n'y a personne qui vient les attendre. Enfin, en tout cas, Madame Forman n'est pas là, et là va commencer donc leur périple. Je trouve que c'est vraiment un film à suspense, hein, qui est vraiment haletant, qui est très angoissant pour l'adulte. Je ne sais pas comment les enfants l'ont reçu, qui l'avait montré, qui est même terriblement angoissant à certains moments. Mais c'est aussi ce qui fait, je pense, sa force et son efficacité, je dirais, même du point de vue de la transmission, de ce qui s'est passé, etc. Et ce que vous avez bien réussi à montrer, c'est aussi à quel point, finalement, les terreurs... les terreurs qu'on a quand on est enfant, par exemple la peur du noir, la peur des monstres, etc., dans le cas de ces enfants juifs, elle est démultipliée par la peur qui est de se savoir en danger de mort, quoi. Leur existence même est menacée.
Mais ce qui me paraissait important, c'était de montrer qu'au début du film, ils sont des enfants, c'est-à-dire sous la responsabilité d'un adulte. On leur demande de rester des enfants. Donc il y a les peurs qui étaient... les peurs dues à cette époque, c'est-à-dire que souvent, la journée, tout allait bien, et la nuit, les cauchemars ressortaient, le manque, la peur de l'abandon, toutes ces angoisses ressortaient beaucoup la nuit, de tout ce que j'ai entendu des témoignages. Et au fur et à mesure, quand ils se retrouvent sans adultes, c'est comme s'ils récupéraient les angoisses d'adultes. On leur demande de se comporter, de prendre des responsabilités, comme tous les enfants en temps de guerre, de prendre des responsabilités qui ne sont plus des responsabilités d'enfants, mais des responsabilités d'adultes. Et c'est comme s'ils récupéraient les angoisses des adultes, à savoir que, oui, tout d'un coup, on se méfie, on doit se méfier de tout le monde, on doit se méfier des autres, on sait qu'il y a du danger, donc la méfiance et l'angoisse est beaucoup plus grande, évidemment, sans les adultes.
Mais à raison, d'ailleurs, ils doivent se méfier, parce qu'ils se retrouvent, à un moment donné, dénoncés par une femme... à qui une petite fille a fait confiance. Et vous restituez bien aussi, je trouve, l'incrédulité de ces enfants qui ne comprennent pas en fait ce qui leur arrive vraiment. Et d'ailleurs, le spectateur, là aussi, aidé par cette absence, on va dire, de repères hein, dans le film, comprend pas forcément aussi exactement ce qui se passe. Il y a un de vos personnages, d'ailleurs, je crois que c'est peut-être la petite Georgette hein, qui dit... alors, elle demande, mais nous, on est juifs. Alors, garçon lui dit, bah oui, on est juifs. Elle dit, bah, si c'est pas bien d'être juif, pourquoi on n'arrête pas d'être juif ? Avec cet échange est très, très pertinent, en fait.
Mais parce qu'en fait, déjà, comment expliquer la guerre à un enfant ? Même moi, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est... Quoi, j'arrive pas à comprendre ? J'arrive pas à l'accepter et à le comprendre, non ? C'est incompréhensible. Donc, comment un enfant peut comprendre ? Et surtout, beaucoup de ces petits-enfants savaient même pas qu'ils étaient juifs. Quand ils pouvaient faire Shabbat dans les maisons de Lozé, mais on leur disait... Il y avait pas... Voilà, ils étaient juifs, mais... ils le savaient même pas eux-mêmes. C'était pas un problème. C'était pas pourquoi on leur dirait. Donc
oui, certains venaient de familles totalement assimilées.
Bien sûr. Et même
peut-être
si
d'autres avaient fait un rejet hein, aussi.
Il y en avait qui faisaient forcément des rejets, qui savaient très bien que c'était un instant de survie. C'était ne plus être juif. Ne plus être juif voulait dire survie. Voulait dire vivre. Donc forcément, ils ne pouvaient pas se permettre de s'avouer, même ils s'autoconvainquaient d'être, ne pas être juif. Donc, il y en avait certains, évidemment. Mais il y en a beaucoup qui ne savaient même pas qu'ils étaient juifs. Donc, c'est après l'incompréhension de la guerre, l'incompréhension de pourquoi on leur en veut. Et effectivement, après, ces enfants parlent du grand méchant nazi, comme si c'était un grand méchant monstre. Oui, l'incarnation, tout vient dans ce monstre. Ça peut pas être humain. Ce qui s'est passé ne pouvait pas être humain. Donc oui, qu'il le représente par un monstre, c'était très juste.
Je me demandais si votre film avait été vu par d'anciens enfants cachés, par exemple, ou d'anciens enfants qui ont vécu cette traque, cette véritable chasse à l'homme. Comment il avait été reçu, éventuellement ?
Ils le disent pas beaucoup, donc oui, il y a eu des projections et il y a des gens qui sont venus à la fin me dire c'est ce qui m'est arrivé, sans en dire plus. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en parler, voilà, il y a des gens comme Fanny Benhamy qui ont un besoin de témoigner, qui ont besoin d'aller d'en parler, de faire passer ce message. Il y en a beaucoup qui n'en parlent pas, donc j'ai eu quelques retours. Juste des petits mots me disant merci, c'est ce que j'ai vécu, ou merci, c'est ce que ma mère a vécu, ou voilà, pas plus, mais je trouve ça très formidable de l'avoir entendu.
Et Fanny Benhamy elle-même, comment a-t-elle vécu ce film en fait ?
Ça a été une drôle d'histoire parce que après l'avoir, c'est toujours très étrange, l'avoir interviewé, donc filmé, récupéré tous ses souvenirs. J'ai coécrit le film avec une scénariste qui s'appelle Anne Perraigne. On a fini le scénario et donc j'avais besoin de cette validation de Fanny Benhamy. Donc elle a lu le scénario, je lui ai dit attention parce que c'est très troublant. C'est un peu de votre vie, mais j'ai changé des choses, donc c'est très étrange. Au début, je crois qu'elle a été un peu troublée en se disant mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça et pas ça. Et en fait, elle est très vite revenue en disant mais on s'en fout de savoir ce qui est vrai, pas vrai par rapport à moi, quoi. Tout est juste. Donc, c'est ça le principal. Et puis, le principal, c'est de faire passer le même message, c'est d'avoir la même envie. Peu importe que ça soit un film, peu importe que ça soit un livre, peu importe de qui il y a le plus d'histoire. Il y a un moment, c'est la même envie. C'est la même envie de dire attention, de dire on s'adresse à tout le monde d'une chose qui s'est passée il y a 70 ans. Attention, parce qu'il faut en parler. Attention que ça ne revienne pas. Attention des enfants en train de fuir un pays en guerre, ça peut faire penser à d'autres choses. Donc, si ce film sert à parler, à discuter, à débattre de choses d'aujourd'hui, d'hier, tant mieux. On a la même envie sur ça. C'est vraiment cette envie-là en priorité.
Je crois que c'est aussi la force de la fiction quand elle est... quand elle est à la hauteur de son sujet, comme c'est le cas de votre film, par rapport à un documentaire, justement, parce que où on peut être un peu à distance, où malgré tout, ça peut rester une abstraction, même si c'est incarné à l'écran, au sens où il y a des témoins. Mais là, on est vraiment, nous, spectateurs, à la place de l'enfant, à éprouver. C'est une épreuve, ce film. C'est une... enfin, voilà, moi, j'étais dans la salle de projection. J'étais mal, quoi. J'étais mal, même avec des moments de soulagement, mais en sachant que c'est pas fini, jusqu'à ce qu'ils atteignent la frontière. J'en dirai pas plus. Je vais pas... Mais on est là, agrippé à son fauteuil, en se disant, mon Dieu, mais est-ce que ce cauchemar va s'arrêter à un moment donné? Même si vous montrez rien, effectivement, il n'y a pas de scène de véritablement de violence, mais il y a cette violence psychologique. Et voilà, je trouve que bon, c'est là où la fiction a un grand mérite. La fiction, parfois, c'est complètement raté. Ça peut être carton-pâte, ça peut tomber à plat, ça peut... Voilà, surtout sur la Shoah, on le sait bien, il y a quand même beaucoup de films qui tombent, qui ratent leur cible, qui ne sont pas à la hauteur. Là, ce n'est pas le cas. Et justement, quand vous disiez dans une interview que vous ne sentiez pas forcément légitime pour faire ce film, parce que vous n'étiez pas juive, mais en même temps, voilà... Finalement, votre histoire, en tout cas, est partie liée à cette histoire, à travers votre fils. Voilà, moi, je trouve que vous, non seulement vous l'êtes, mais que c'est bien que voilà, qu'il y ait des non-juifs qui s'emparent de cette histoire.
Oui, et je me suis posé cette question de légitimité, c'était la première question, de me dire est-ce que j'ai le droit de raconter ça. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas une histoire juive, pas juive, c'est pas ça, c'est l'histoire de France dont on parle. Là, on parle d'enfants juifs, très bien, mais ça s'est passé en France. Ces enfants se sont fait arrêter par des gendarmes français. C'est notre histoire de France. Il y a un contexte à replacer où c'est pas. Il faut arrêter de se dédouaner de certaines choses. Il y a des gendarmes qui ont aidé beaucoup d'enfants ou de familles juives, mais les premiers à avoir arrêté ces enfants, ce sont des Français. Et ils ont arrêté des enfants français, juifs aussi. Donc, faut faire attention de vraiment remettre ce contexte-là en disant oui, c'est notre histoire de France. Donc, en ça, je me sens plus que légitime sur cette histoire française.
Tout à fait. D'ailleurs, il y a deux personnages de gendarmes qui décident d'enfermer les enfants dans une salle de classe. Et de les affamer jusqu'à ce qu'ils acceptent de livrer les noms des personnes qui les ont aidés. Et c'est cette scène et bon, cette partie du film enfin donne l'occasion de belles scènes aussi dans cette salle où les enfants pour tuer le temps se cultivent enfin finalement utilisent ce qu'ils ont sous la main, map monde, carte de géographie dans lequel ils s'enroulent. Je trouve que c'est un film aussi plein de poésie et voilà, et de subtilité. Vous avez vraiment fait votre miel de toutes ces lectures. Oui. J'ai pas de questions, en fait, j'ai que des commentaires très élogieux. Peut-être une dernière question. Est-ce que justement vous avez le projet de le présenter à des classes?
J'aimerais beaucoup
faire un instrument de transmission aussi.
Ça a été, c'est en cours, c'est vu par des professeurs. S'ils pouvaient l'utiliser, ce serait très bien. Pour moi, c'est vraiment, c'est un film qui est un outil. Et j'aimerais qu'il soit pris comme ça, que ça reste. C'est pas juste un film, c'est pas que pour faire des entrées. C'est aussi, c'est un outil dont on peut servir pour justement dialoguer parmi les enfants, les collégiens. Voilà, j'ai envie de dire, utilisez-le, c'est plus à moi. Moi, c'est bon, je l'ai fait. Maintenant, je veux que ce film puisse voyager parmi les gens et soit utilisé pour un dialogue. Ce serait formidable.
Eh bien, j'invite les auditeurs de Mémoire Vive, de RCJ, à s'en emparer, s'il y a des enseignants parmi eux, des éducateurs. Merci Lola Doyon d'être venue à Mémoire Vive. Merci pour ce film, Le Voyage de Fanny, qui sort en salle, donc je le rappelle, le 18 mai. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.